Leçon 7. Bâtir un mariage solide. Objectif de la leçon. À la fin de cette leçon, les étudiants doivent être en mesure de 1. Comprendre la relation qui existe entre les besoins des hommes et des femmes, tels que définis par Dieu, et les instructions divines concernant les relations dans le mariage. 2. Démontrer comment les conjoints comblent leurs besoins mutuels en obéissant aux principes bibliques. Accepter les différences individuelles. Les hommes et les femmes sont différents à bien des égards, ce n'est un secret pour personne. Plusieurs hommes ont du mal à exprimer leurs émotions, tandis que plusieurs femmes considèrent qu'exprimer leurs émotions est un élément essentiel d'une véritable communication. Les hommes ont tendance à prendre des risques, alors que les femmes sont plus soucieuses de leur sécurité. Les hommes éprouvent une attirance naturelle pour la beauté physique, alors que la plupart des femmes sont attirées par l'intimité émotionnelle. L'on pourrait citer bien d'autres différences. Outre les différences habituelles entre les sexes, le mari et la femme présentent des différences de personnalité. L'un peut apprécier la compagnie des amis, tandis que l'autre aime la solitude. Il existe de petites disparités, comme le degré de luminosité de la maison ou la température d'une pièce. Les désaccords sur les dépenses financières sème le trouble dans plusieurs foyers. Ces divergences ne sont pas nécessairement des différences de caractère. Il peut s'agir simplement de différences de personnalité et d'opinion. Dans la mesure où le mariage unit l'homme et la femme, l'on a tendance à penser que les divergences vont s'estomper. Une personne peut considérer que les différences de son conjoint sont des anomalies qui doivent être corrigées. Chaque conjoint peut s'obstiner à vouloir changer les opinions, les habitudes et les goûts de l'autre. La relation est certes un moyen pour chacun de progresser et de s'améliorer. Cependant, la volonté de changer une personne constitue parfois une atteinte à l'individualité de cette dernière. Dans un mariage sain, chaque conjoint développe la capacité d'aimer, de respecter, d'apprécier et de servir l'autre. Choisir de servir. Dans son livre « Sacred Marriage », Gary Thomas déclare « Un bon mariage n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné. Il faut se battre. Vous devez crucifier votre égoïsme. Vous devez parfois résister et parfois confesser. Le pardon est un élément essentiel. Il s'agit indéniablement d'une tâche ardue, mais elle finit par porter ses fruits. Elle finit par créer une belle relation basée sur la confiance et le soutien mutuel. » Gary Thomas, Sacred Marriage, Grand Rapids, Zondervan, 2000, Page 133. Thomas a cité Otto Piper. Lorsque le mariage devient une expérience frustrante pour de nombreuses personnes, la cause réside dans l'apathie de leur foi. Les êtres humains refusent d'admettre que pour déceler et savourer les bénédictions de Dieu, il faut une quête obstinée. Matthieu 7, 7, Luc 11, 9. Le mariage est par conséquent un don et une tâche à accomplir. Gary Thomas, Sacred Marriage, page 133. Souvent, les mariages ont du mal à s'épanouir parce que les conjoints pensent à leurs besoins personnels au lieu d'essayer de répondre aux besoins de chacun. Aucun être humain ne peut combler les besoins les plus profonds de ses semblables. Seul notre Père Céleste peut pleinement satisfaire nos attentes et nos désirs, la raison pour laquelle Jésus est venu. Son objectif est de nous sauver, de nous remplir de son Esprit, le Saint-Esprit, et de nous amener à une relation profonde et satisfaisante avec Abba Père. Romains 8, 14 à 15, Galates 4, 6. Cependant, l'un des objectifs de Dieu pour le mariage est de le transformer en un terrain d'entraînement pour le service, comme nous l'observons en Jésus, Jean 13, 14. Dieu veut implanter dans chaque époux l'humilité d'un serviteur qui se préoccupe de son prochain, Philippiens 2, 3 à 8. Certains des mariages les plus beaux et les plus heureux résultent du choix d'un des conjoints de se mettre au service de l'autre dans une situation exceptionnellement difficile, maladie, échec, tragédie ou chagrin. Certains maris attestent que sans les prières, le pardon, la vigilance et l'amour inconditionnel de leur femme, ils auraient eu une vie totalement ruinée. Certaines femmes affirment que sans la patience et le soutien de leur mari, elles n'auraient pas réussi à surmonter les dommages émotionnels causés par un père violent ou d'autres traumatismes, Nous vivons dans un monde déchu et gangrené par le péché, dans lequel la création tout entière subit un profond gémissement. Romains 8, 22. Chaque personne mariée porte des blessures et des cicatrices. Toutefois, la grâce de Dieu peut nous permettre de prendre soin l'un de l'autre et de panser nos blessures respectives. Chaque être humain naît égoïste. Nos besoins nous préoccupent généralement plus que ceux des autres. La grâce de Dieu, qui sauve et sanctifie, peut nous changer par l'intermédiaire de l'Esprit Saint pour que nous devenions des personnes qui placent les besoins des autres avant les nôtres. Le mariage s'épanouit lorsque chaque conjoint est attentif aux besoins et aux désirs de son partenaire. Les besoins primaires des époux et des épouses. Dieu a créé les hommes et les femmes avec des besoins et des désirs différents. Ainsi, l'homme ne doit pas supposer que sa femme sera heureuse pour les mêmes raisons que lui. La femme ne doit pas supposer que son mari désire être traité de la même manière qu'elle le souhaite. De toute évidence, certaines formes de gentillesse et de courtoisie doivent être les mêmes pour les deux. Mais les hommes et les femmes ont chacun des besoins spécifiques. En connaissant les besoins spécifiques des hommes et des femmes, nous pouvons savoir comment répondre aux attentes d'un conjoint. Il est triste de constater que de nombreuses querelles et disputes entre mari et femme ne résolvent pas les problèmes parce que chacun ne comprend pas les besoins de l'autre. Chacun peut éprouver de la colère et du ressentiment parce que l'autre ne comprend pas. Tous les êtres humains ont besoin d'amour et de respect, mais les hommes et les femmes sont différents. Le besoin primaire de la femme est l'amour, et celui de l'homme est le respect. The book Love and Respect by Dr. Emerson Eggerich has been very helpful in this section. Comment le mari doit-il exprimer son amour à sa femme? Éphésiens 5, 25, 28 déclare: Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Le mari doit fréquemment dire à sa femme qu'il l'aime, sans supposer qu'elle le sait déjà. Il doit également manifester son amour par d'autres moyens que des mots. Il doit lui exprimer son amour de la manière qu'elle souhaite être aimée. Il ne doit pas penser qu'elle se sent aimée, parce qu'il lui exprime son amour selon des critères qui lui sont propres. Ses besoins sont différents des siens. 1. Le mari aime sa femme en lui assurant la sécurité. Plusieurs versets bibliques illustrent cette vérité, notamment Éphésiens 5, 28 à 31, Colossiens 3, 19, protection émotionnelle, 1 Timothée 5, 8, provision physique, Néhémie 4, 13 à 14, protection physique, et 1 Timothée 2, 14, protection spirituelle. La femme a besoin de savoir que son mari la protège physiquement et émotionnellement. Le mari doit prendre en charge les conflits avec les voisins. Le mari doit s'assurer que le foyer est un lieu sûr. Il doit prendre sa défense lorsqu'elle est sous le feu des critiques venant d'autres personnes, même de la famille. Il ne doit jamais battre sa femme ou la frapper pour l'obliger à lui obéir. Le mari doit veiller à subvenir aux besoins matériels de sa famille. Si le mari se montre négligent avec l'argent, sa femme aura l'impression qu'il ne se préoccupe pas des besoins de sa famille. L'aspect financier pour les maris. Les problèmes financiers constituent l'une des principales causes de conflits dans un mariage. Quelques consignes pour les maris. Refusez de faire des activités malhonnêtes ou immorales dans un but lucratif. Souvenez-vous que vous êtes sous l'autorité de Dieu. Donnez la dîme à l'Église, car vous faites confiance à Dieu pour subvenir à vos besoins. Cherchez le meilleur emploi possible, mais acceptez de travailler dans des conditions désagréables pour l'instant. Que vous ayez un emploi ou non, trouvez un travail à effectuer chaque jour pour vous aider et aider les autres. Ne dépensez pas l'argent des jours à venir en empruntant aujourd'hui. Lorsque vous dépensez de l'argent pour les loisirs, incluez votre femme et vos enfants. Épargnez régulièrement pour les dépenses courantes, comme le loyer de votre maison. Investissez l'argent pour améliorer votre situation au lieu de le dépenser pour le confort. 2. Le mari aime sa femme en se réservant pour elle. Le mari doit préserver sa pureté morale et prendre plaisir à sa femme. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Proverbe 5, 19. Si le mari entretient des relations inappropriées ou immorales avec d'autres femmes, ou s'adonne à des activités impures, sa femme ne se sentira pas aimée. 3. Le mari aime sa femme en essayant de la comprendre. Le mari ne réussira pas toujours à comprendre sa femme, mais il doit prendre le temps de l'écouter et de l'étudier. La Bible déclare au mari « Vous de même, maris, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. » 1 Pierre 3, 7. Si le mari ridiculise les sentiments et les opinions de son épouse, celle-ci ne se sentira pas aimée. Elle veut qu'il essaie de comprendre ses préoccupations, même si ses déclarations ne lui semblent pas logiques. Dieu a établi le mari comme chef de famille. Éphésiens 5, 23. Il lui incombe donc de diriger le foyer, 1 Timothée 3, 4 à 5. Cependant, le mari et la femme doivent prendre le temps de discuter afin de se mettre d'accord sur la plupart des décisions. Le mari ne doit pas prendre de décisions hâtives sans tenir compte des sentiments et des opinions de son épouse. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une question, le mari peut être amené à prendre une décision, mais il doit éprouver du chagrin à l'idée du désaccord dans sa famille. En général, l'absence d'unité est un avertissement pour le mari. Les femmes possèdent généralement la sagesse et le discernement dont les hommes ont besoin pour prendre de bonnes décisions. Lisez Éphésiens 4, 2 à 3, 15 à 16. Comment ces versets s'appliquent-ils à la relation entre le mari et la femme? 4. Le mari aime sa femme en l'appréciant. Proverbe 31, 28 à 31. De nombreuses femmes ont l'impression que leur mari n'apprécie pas le travail qu'elles accomplissent. Le mari doit faire preuve de gratitude envers sa femme. Il doit apprécier les efforts qu'elle fournit pour la famille. Il ne doit jamais la critiquer en présence de tiers. Dans le cadre du mariage, il faut appliquer les instructions divines en Éphésiens 4, 29 à 32, 5, 25 à 29 et en Matthieu 7, 12. Il doit faire l'éloge de son caractère, de sa beauté et de ses capacités. Dans la mesure de ses moyens, il doit veiller au bon état vestimentaire de sa femme. La femme qui estime que son mari ne se préoccupe pas de son apparence ne se sent pas aimée. Lorsque le mari critique sa femme, il peut l'amener à penser qu'elle n'est pas capable d'assumer ses responsabilités et la décourager. Paul recommande aux chrétiens qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Tite 3, 2. Si la critique est nécessaire, le mari doit s'assurer que sa gratitude à l'égard de sa femme est plus grande que sa critique. Il doit éviter de citer des exemples de femmes qui sont supérieures à son épouse dans diverses caractéristiques. 5. Le mari aime sa femme en consacrant du temps à sa relation. Pour profiter de la vie de couple, il faut consacrer du temps à la communication. La communication consolide les relations. Proverbe 16, 24, Proverbe 20, 5. Les conjoints doivent parler des activités qui rythment leur journée. Ils doivent parler de leurs amis, de leurs sentiments, de leurs désirs et de leurs préoccupations. La femme se sent aimée lorsque son mari prend le temps de parler avec elle et de l'écouter. Lorsqu'il rentre épuisé après une journée de travail, il ne désire probablement pas parler ou écouter les problèmes de la maison, mais il ne doit pas négliger ce besoin. Si le mari réclame l'intimité physique, mais n'est guère disponible pour l'intimité émotionnelle, la femme a le sentiment d'être utilisée et non aimée. 6. Le mari aime sa femme en usant de patience à l'égard de ses faiblesses. 1 Pierre 3, 7 déclare « Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. » La plupart des femmes ne sont pas aussi fortes physiquement que les hommes. Par ailleurs, la plupart des femmes sont plus vulnérables à la douleur et à la détresse émotionnelle que les hommes. Le mari doit réconforter et encourager sa femme. Il doit apprendre à la soulager de son stress. Il doit éviter d'exiger plus d'efforts si elle est fatiguée, stressée ou inquiète. 7. Le mari aime sa femme en comblant ses besoins matériels. Tout homme désire disposer des meilleurs outils et d'un bon espace pour travailler. Ainsi, il doit offrir un cadre agréable à sa femme. Il doit effectuer la maintenance de la maison et fournir les outils dont elle a besoin. les résultats de l'amour des maris pour leurs femmes. La plupart des maris constatent que l'amour qu'ils témoignent à leur femme se traduit par la joie et la coopération de cette dernière. La femme se sent heureuse lorsque son mari lui est dévoué et lui témoigne de l'amour selon les méthodes indiquées plus haut. Les hommes tirent le meilleur parti de leur mariage lorsqu'ils témoignent de l'amour à leur femme, Éphésiens 5, 28. Cependant, les résultats ne sont pas garantis aux hommes. Il existe des exceptions. Le mari ne doit pas exprimer son amour dans le but d'obtenir ce qu'il désire. Il doit aimer pour plaire à Dieu et répondre aux besoins de sa femme au lieu de se préoccuper de ses besoins personnels. Certaines femmes portent des séquelles émotionnelles à la suite d'expériences passées et peuvent réagir difficilement à l'amour de leur mari. Témoigner son amour à sa femme ne représente pas une stratégie expérimentale à mettre en œuvre pendant quelques jours. Le mari doit continuer à exprimer son amour selon les méthodes décrites ci-dessus en raison de l'amour qu'il porte dans son cœur à Dieu et à sa femme. Christ aime l'Église avec fidélité et avec un engagement sacrificiel. Comment la femme montre-t-elle son respect pour son mari? Éphésiens 5, 33 déclare « Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. » Les hommes ont besoin de respect. La plupart des hommes préfèrent le respect des autres à l'affection qu'ils peuvent leur porter. Dieu a créé les hommes pour qu'ils protègent, soutiennent et dirigent leur famille. Le rôle de père et de mari mérite le respect avant même qu'ils se comportent de manière à le mériter. La femme doit respecter son mari, même si ses actes sont condamnables. Elle doit le traiter comme une personne, créée à l'image de Dieu, qui a de l'importance même lorsqu'il n'utilise pas son autorité à la perfection. Éphésiens 5, 23. Cette affirmation ne lui interdit pas d'exprimer son désaccord avec ses actes ou ses décisions, mais sa démarche ne doit pas être irrespectueuse. Lorsque la femme respecte son mari et se soumet librement à son autorité, elle manifeste son amour pour Jésus. Éphésiens 5, 22, 30 et 1 à 33. Certaines femmes pensent aimer leur mari en les traitant de manière irrespectueuse, en les critiquant auprès de leurs amis, en étant cachotières et en utilisant des paroles blessantes. Elles doivent comprendre que l'affection ne peut compenser le manque de respect. En général, les femmes ont une forte propension à se montrer maternelles avec un petit enfant. Elles ont la capacité innée et le désir naturel de subvenir aux besoins d'un bébé. Imaginez le sentiment de la femme si quelqu'un lui disait « Tu es incapable de t'occuper d'un bébé ». De même, les hommes ressentent un fort besoin de protéger, de subvenir aux besoins et de diriger. Lorsque la femme lui dit qu'il est incapable de remplir ses fonctions, l'homme a l'impression d'avoir échoué dans sa mission. La femme doit comprendre que certains hommes se distinguent par leur personnalité, gagnent plus d'argent ou occupent des postes plus élevés que son mari. Elle ne doit pas donner à son mari le sentiment d'être un incapable en le comparant aux autres. Selon Éphésiens 5, 21 à 33, la femme ne fait qu'un avec son mari. Lorsque la femme le critique ou le compare à d'autres hommes, elle cause du tort au couple et à leur relation. Lisez Proverbe 31, 11 à 12, 26. Quels enseignements ces versets nous apportent-ils sur le comportement et les paroles d'une femme pieuse à l'égard de son mari? 1. La femme respecte son mari par des paroles valorisantes. La femme doit valoriser le potentiel de son mari. Le respect se manifeste à travers les paroles valorisantes que la femme adresse à son mari. Les mots ont un effet puissant sur la plupart des hommes. Ils édifient ou détruisent. Proverbe 14, 1. Ils encouragent ou affaiblissent. Ils renforcent la confiance ou brisent l'esprit. Proverbe 18, 21. L'homme ne réussira probablement pas dans toutes ses entreprises et n'occupera sans doute pas certains postes, mais sa femme doit le soutenir dans ses efforts pour subvenir aux besoins de sa famille et lui assurer la sécurité. Elle doit éviter de le décourager dans ses idées et dans ses tentatives de relever de nouveaux défis. Lisez Proverbe 15, 4 et Proverbe 16, 24. 2. La femme respecte son mari à travers la soumission. 1 Pierre 3, 5. La soumission de la femme ne signifie pas qu'elle est inférieure à son mari. La soumission signifie que leurs rôles sont différents. Même au sein de la Trinité, nous constatons que le Fils se soumet au Père, sans pour autant être inférieur en nature, en pouvoir ou en tout autre attribut. Certaines femmes ont du mal à se soumettre, notamment si leur mari n'obéit pas à la parole de Dieu ou s'il manque d'attention à leur égard. Certaines femmes pensent qu'elles peuvent prendre de meilleures décisions pour elles ou pour leur famille que leur mari. Parfois, la femme a raison et le mari a tort. Toutefois, si la femme se soumet à son mari uniquement lorsqu'elle est d'accord avec lui, elle s'approprie l'autorité et la soumission est incomplète. Se soumettre signifie laisser quelqu'un d'autre prendre les décisions. Pierre déclare aux femmes, « Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite. Que votre parure ne soit pas extérieure. Cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. » 1 Pierre 3, 1, 3 à 4. Plusieurs situations sont complexes. Plusieurs épouses se posent des questions. S'ils me demandent de « à quoi ?» Décrivez une situation de votre vie. Suis-je obligée de le faire ? Cette leçon n'est pas en mesure de répondre à la diversité des situations qui existent. Cependant, le problème de la soumission ne provient généralement pas des exigences irréalistes du mari envers la femme. La femme peut refuser de se soumettre parce qu'elle pense que son mari sera déraisonnable dans ce cas. Son mari n'est peut-être pas affectueux et gentil. La femme peut refuser de renoncer à sa liberté de prendre ses décisions. La femme peut présenter une attitude de défiance. En général, la femme utilise des exemples de comportements ou d'erreurs malveillantes de son mari comme excuse pour rejeter son autorité. Il s'agit d'une désobéissance au commandement de la parole de Dieu. La Bible nous apprend qu'une femme pieuse et soumise peut amener son mari au Seigneur. Rien ne garantit que le mari devienne chrétien à cause d'une bonne épouse, mais il est peu probable qu'il accepte le salut si sa femme chrétienne est rebelle. La femme peut bénéficier de la faveur de son mari grâce à son respect, mais il ne s'agit pas de la raison principale pour laquelle elle doit se conduire ainsi. Elle doit respecter son mari parce qu'il s'agit d'une obligation et parce qu'elle veut plaire à Dieu. Proverbe 12, 4 déclare « Une femme de valeur est comme une couronne pour son mari, mais celle qui lui fait honte est comme une maladie qui ronge les os. » Si la femme méprise son mari en présence de ses amis, elle lui retire l'honneur qu'elle ne pourra peut-être jamais lui rendre. Les hommes admirent ceux qui ont des épouses dévouées. Les hommes ont pitié de ceux qui ont des femmes irrespectueuses. 3. La femme respecte son mari en prêtant attention à ses besoins. Proverbe 31, 15, 21, 25, 27. Lorsque la femme prend soin des tâches ménagères et de la préparation des repas en fonction des besoins de son mari, il se sent honoré. Si elle refuse de changer ses habitudes pour lui, il a l'impression de ne pas compter à ses yeux. Si la femme est absorbée par son travail, ses amis, l'église ou les loisirs, et qu'elle ne prend pas le temps d'écouter son mari parler ou d'observer ses besoins, il a l'impression qu'il n'a pas d'importance pour elle. Genèse 2, 18 déclare « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » 4. La femme respecte son mari en lui donnant de l'affection physique. Les hommes semblent attacher plus d'importance au plaisir sexuel que les femmes. Les femmes ont un désir sexuel inférieur à celui des hommes, surtout si elles sont de mauvaise humeur. Par conséquent, le mari peut fréquemment se sentir frustré par son épouse qui ne comprend pas ses besoins. Elle peut même mépriser le désir sexuel masculin en raison d'abus antérieurs subis ou vécus. Le mari doit être patient et compréhensif à l'égard de sa femme. Cependant, la femme doit comprendre la nécessité de répondre aux besoins sexuels de son mari, même si elle n'en ressent pas le besoin. Si le mari est fidèle et dévoué à son épouse, sans entretenir de relations impures avec d'autres femmes, il peut éprouver un certain ressentiment lorsque sa femme ne se préoccupe pas de ses besoins. La fidélité du mari à son engagement matrimonial ne doit jamais dépendre de la satisfaction sexuelle. Par ailleurs, l'attention portée par sa femme à ses besoins sexuels peut atténuer sa lutte contre la tentation. Cantique des Cantiques souligne « Mon bien-aimé, il est à moi, et moi, je suis à lui. Viens donc, mon bien-aimé, sortons dans la campagne. Nous passerons la nuit au milieu des hameaux. Là-bas, je te ferai le don de mon amour. » Cantique des Cantiques 2, 16. Cantique des Cantiques 7, 11 à 13. En phase ajoutée. Voir aussi 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Les conséquences de la désobéissance aux instructions de Dieu. Les descriptions dans ces paragraphes ne concernent pas tous les conflits dans le mariage, mais uniquement les cas les plus fréquents. Ces descriptions illustrent les comportements naturels qui surviennent dans un cycle de cause à effet lorsque les époux adoptent une attitude non spirituelle face à leurs sentiments, au lieu 1. D'admettre leurs sentiments, 2. Se souvenir de la vérité de Dieu et de sa volonté pour eux, et 3. Dépendre de l'esprit pour les aider à réagir de manière biblique. Si la femme n'est pas guidée par l'esprit et ne laisse pas l'amour de Dieu agir en elle, elle risque d'avoir des réactions naturelles qui nuiront à son mariage. Si la femme ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas en sécurité. Elle commence à s'affirmer et à résister à l'autorité de son mari parce qu'elle n'a pas confiance en lui pour s'occuper d'elle. Lorsqu'elle agit ainsi, son mari ressent un manque de respect. S'il essaie à son tour de faire valoir son autorité et d'exiger le respect, elle a encore plus l'impression qu'il ne l'aime pas. Si le mari n'est pas guidé par l'esprit et ne laisse pas l'amour de Dieu agir à travers lui, il risque de ne pas adopter une attitude qui consolide son mariage. Lorsque le mari ressent un manque de respect, il se sent blessé et il se met en colère. Il peut tenir des propos blessants à l'égard de sa femme. S'il essaie de se contenir, il peut adopter un comportement silencieux. Il ne souhaite pas se rapprocher de sa femme ou lui ouvrir son cœur, car il a l'impression qu'elle n'est pas une alliée. Lorsqu'il agit ainsi, sa femme ne comprend pas la raison de cette attitude. Elle a peut-être manqué de respect à son mari parce qu'elle essayait de lui faire comprendre qu'elle était malheureuse et qu'il devait changer. Lorsqu'il se met en colère ou se replie sur lui-même, elle pense qu'il s'agit d'une confirmation d'un manque de considération pour ses sentiments. Elle peut alors se montrer encore plus irrespectueuse. Lorsque la relation conjugale se dégrade, les conjoints sont plus vulnérables à la tentation. La femme est tentée de résister davantage au leadership de son mari. Elle est tentée de parler de lui aux autres avec mépris. Elle peut être tentée de savourer l'attention d'un autre homme qui semble l'apprécier. Le mari est tenté de s'éloigner de sa femme parce que son comportement l'offense. Il n'éprouve aucune envie de faire preuve d'amour à son égard. Il peut se laisser tenter par l'attention d'une autre femme qu'il admire. Chaque être humain est responsable de ses choix devant Dieu. Dieu n'excusera le péché de personne à cause du comportement de son conjoint. Dieu nous garantit la force nécessaire pour nous aider à vivre selon ses desseins. Le but de ces informations n'est pas d'exiger de son conjoint d'accomplir ses devoirs, ni de rejeter la responsabilité de ses péchés sur son conjoint. L'objectif est de permettre à chacun de prendre conscience de sa responsabilité de plaire à Dieu et de donner à son conjoint ce dont il a besoin. Des objectifs erronés. Parfois, les êtres humains cherchent des moyens de rendre leur vie plus facile. Le mari veut rendre sa vie aisée en amenant sa femme à changer. De même, la femme peut considérer que sa vie serait meilleure si son mari changeait. Une personne demande à un conseiller, à un pasteur ou à des amis comment changer son conjoint. Changer son conjoint n'est pas un objectif approprié. Quelqu'un qui essaie de rendre sa vie plus facile en utilisant des techniques relationnelles ne se fonde pas sur l'amour de Dieu ou de son conjoint. Parfois, une personne essaie pendant des années de corriger les défauts de l'autre. Elle ne cesse de critiquer les mêmes défauts. Même si chaque être humain a des défauts spécifiques, chaque conjoint doit finir par accepter son partenaire avec ses défauts. Les défauts peuvent concerner la personnalité, le caractère ou la vie spirituelle, même le péché. La relation ne doit pas dépendre de la volonté de son partenaire de changer. Il peut se sentir incapable de changer. Peu importe la raison pour laquelle il refuse de changer, chaque conjoint doit manifester de l'amour et du respect en appréciant la personne, même avec ses défauts. Conclusion. Dieu a façonné le caractère de l'homme et de la femme, et il a institué le mariage pour répondre aux besoins des êtres humains. Cependant, nous vivons dans un monde où plusieurs mariages et familles subissent les effets pervers du péché. Chaque être humain est meurtri par ses péchés et par ceux des autres qui l'affectent. Nous ne pouvons pas jouir du mariage conformément au plan de Dieu sans la grâce qui nous change et nous aide à témoigner cette grâce à d'autres personnes. Nous avons besoin de la purification de l'Esprit de Dieu pour développer des motivations pures, un amour fort et une humilité pour servir. Prière. Père Céleste, merci d'avoir conçu la relation conjugale pour répondre aux besoins spéciaux de tant de personnes. Merci de nous avoir donné des instructions pour le mariage. Aide-nous à manifester l'amour et la compassion dont nous avons besoin pour prendre soin des autres. Aide-nous à fonder des familles qui propagent ton amour dans le monde. Merci pour ta grâce qui nous aide à aimer les autres comme tu nous aimes. Amen. Autres, comme tu nous aimes. Amen.